Vous êtes dans l'émission Au fil des notes sur Couleur FM 97.1 et nous sommes heureuses, Marie et moi, de vous retrouver aujourd'hui. Bonjour Marie.
Bonjour Valérie.
Alors tout d'abord, nous vous souhaitons de passer de très bonnes fêtes de Noël qui approchent.
Et de très bonnes fêtes voilà, de fin d'année.
De fin d'année. Et nous avons choisi pour terminer cette année de parler de l'opéra. En première partie, nous aborderons l'opéra italien, puis en seconde partie, l'opéra français. Alors, compte tenu de l'étendue du sujet, il nous fallait faire un choix et nous espérons qu'il vous plaira et, voilà, et que ça vous permettra au moins d'appréhender cet art de façon plus simple. Hein. C'était un petit peu compliqué, mais bon, nous n'avons qu'une heure. Alors, expliquons, Marie, tout d'abord, brièvement, ce qu'est un opéra.
Alors, un opéra, c'est une œuvre destinée à être chantée sur scène. Elle appartient à un genre musical vocal du même nom. L'opéra est l'une des formes de théâtre musical occidental regroupée sous l'appellation d'art lyrique. C'est une œuvre qui est chantée par des interprètes possédant un registre vocal déterminé selon les rôles dans l'histoire. Dans le langage savant, on dit le livret. Ces interprètes sont choisis en fonction de leur voix.
Et il y a donc, pour les voix d'hommes, du plus aigu au plus grave, il y a le ténor, le baryton et la basse. Et pour celles des femmes, il y a la soprano et l'alto.
Oui, et ils sont accompagnés par un orchestre, parfois symphonique, parfois de chambre, parfois destiné exclusivement au seul répertoire d'opéra. Et il est constitué d'un livret mis en musique sous forme d'air, de récitatif, de chœur, d'intermède, souvent précédé d'une ouverture et parfois agrémenté de ballet.
Et donc l'opéra occidental est né, lui, en Italie, à Florence, au XVIIe siècle.
Oui, et parmi les pionniers de l'opéra, citons entre autres Jean-Baptiste Lully, Henri Purcell, Georg Friedrich Händel, Giovanni Battista Pergolesi et avant Cristobal de Willibald Gluck et Wolfgang Amadeus Mozart.
C'est pas facile tous ces noms, hein, Marie.
Pas
ils
simple.
Nous font des sacrées prononciations pour nous. Hein. Alors avec ces compositeurs, Marie, nous balayons un siècle de création absolument richissime. Hein.
Oui, dans la période dite moderne, l'accent est placé sur la production dans son ensemble. Le chef d'orchestre, le metteur en scène et le décorateur jouant des rôles aussi importants que, ceux des chanteurs.
Oui, mais alors il y a un certain opéra qui ont donc été spécifiquement conçus pour de la production télévisée ou de la production cinématographique, comme par exemple la Traviata de Zeffirelli. Et là, on voit petit à petit l'opéra être accessible à toutes les tranches d'âge et toucher un public de plus en plus jeune. Hein.
C'est exact. Et pour terminer sur l'aspect général de l'opéra, il faut préciser que dans le dernier quart du XXe siècle, l'opéra, malgré ses efforts artistiques et technologiques, est confronté à une crise financière. Dans la plupart des pays, les compagnies sont largement subventionnées par l'État. Aux États-Unis, les principaux mécènes sont des fondations privées, les entreprises commerciales et de généreux donateurs. Enrico Caruso disait « Les Français sont faits pour composer de la musique d'opéra, les Italiens pour la chanter, les Allemands pour la jouer, les Anglais pour l'entendre et les Américains pour la payer.
Bah, c'est pas mal, c'est une bonne répartition des choses. Mais néanmoins, Marie, de nouveaux opéras sont sans cesse construits en France. L'opéra Bastille à Paris ou l'opéra de Lyon répondant à un souci de perfection acoustique autant qu'à une stratégie politico-culturelle déterminée. Hein.
Oui.
En France, on a quand même cette culture.
Oui, cette culture heureusement, parce que c'est vrai que nous avons très beaux opéras.
Ouais. Alors, vous êtes sur Couleur FM 97.1 dans l'émission Au fil des notes et nous allons écouter un extrait de Una furtiva lacrima, extrait de L'élixir d'amour donc de Vincenzo Bellini, interprété par Luciano Pavarotti.
Thank you. Si può morire, si può morire, d'amor.
Wow.
C'est beau,
ça envoie, hein.
Quelle voix. Alors, il faut dire que Luciano Pavarotti avait donné ses lettres de noblesse à cet air le plus célèbre de l'œuvre en l'interprétant lors de concerts ou d'émissions comme le Grand Échiquier.
Oui, là, oui. C'est une très bonne émission aussi, le Grand Échiquier. En ce qui concerne l'opéra italien, certains estiment qu'il a débuté le 6 mars 1637, jour où dans la paroisse de San Cazziano à Venise, on ouvrit les portes du premier théâtre payant et accessible.
Et indéniablement, le premier grand compositeur d'opéra fut l'Italien Claudio Monteverdi, qui composa l'Orfeo et le couronnement de Poppée. Cependant, le premier opéra, Daphné, est attribué à Jacopo Peri en 1598, chez le comte Bardi.
Ça remonte quand même avant. Hein.
Oui, oui.
Alors, si Claudio Monteverdi n'est pas le premier compositeur à traduire ce programme, c'est lui qui porta, dès ses débuts, l'opéra à un état de perfection qui suscita l'émulation des autres musiciens et la faveur du public. L'opéra de tradition vénitienne mêle souvent aspects tragiques et comiques, voire burlesque. Il fait intervenir la magie, le merveilleux, il multiplie les personnages et les genres musicaux. La dernière école à apparaître est celle de Naples. Elle finira par imposer son style à toute la péninsule italienne et à presque toute l'Europe. Donc l'opéra napolitain, lui, va être l'objet d'une lutte d'influence continuelle entre librettistes, musiciens et chanteurs. Et les librettistes, eux, considèrent que la musique doit être au service du texte, et les musiciens que seule la musique donne vie et consistance à l'œuvre. Alors,
ça ne devait pas être triste,
c'est pas évident, hein, voilà. Hein. Donc, vous êtes sur Couleur FM 97.1 dans l'émission Au fil des notes, et nous vous proposons d'entendre un extrait de l'ouverture du Barbier de Séville de Gioachino Rossini par le Columbia Symphony Orchestra, dirigé par Thomas Schippers.
Thank you.
les chanteurs usent de leur étonnante virtuosité pour imposer l'évolution de l'opéra vers une simple succession d'arias, les récitatifs n'étant que des intermèdes permettant un enchaînement logique des arias. La tradition napolitaine connaît ainsi plusieurs réformes visant à retourner aux fondamentaux. Fondée par Provenzale, son héros principal est Alessandro Scarlatti, qui introduit l'ouverture à l'italienne.
Et oui, et il réduit aussi la structure musicale à l'alternance, le récitatif, l'aria da capo, et il met en vedette la virtuosité des chanteurs, et alors surtout celle des castrats.
Oui, à son époque, oui.
Et favorise l'évolution du drama per musica vers l'opéra seria, qui se différencie alors de l'opéra bouffe.
D'autre part, il est composé sur les livrets d'Apostolo Zeno et surtout de Pietro Metastasio, partisan d'une épuration inspirée par l'exemple des poètes classiques français, Corneille et encore plus Racine. Respect des trois unités, élimination des éléments comiques et merveilleux, limitation du nombre de personnages. L'école napolitaine brilla particulièrement au XVIIIe siècle avec Scarlatti, Porpora, Vinci, Jomelli, etc.
Et donc le genre fut adopté par des musiciens allemands aussi qui ont séjourné en Italie. Ils rivalisaient alors avec les Italiens eux-mêmes, avec Haendel, Haas, puis importés dans les autres pays d'Europe, à l'exception notable de la France. Et la production d'opéra italien est énorme au XVIIIe siècle et elle réutilise à l'infini les mêmes livrets des auteurs les plus appréciés et en particulier Metastase. Alors écoutons maintenant sur Couleur FM 97.1 dans l'émission Au fil des notes l'extrait de Pavarotti Anniversary et Luce van l'Estelle, désolée pour la prononciation, de Puccini.
Voilà, c'est un extrait de la Tosca.
D'accord. Au XIXe siècle, l'opéra italien continua de laisser une place de choix à la voix. Gioachino Rossini, véritable surdoué qui composa son premier opéra en 1806, écrivit des opéras bouffes comme Le Barbier de Séville, Cendrillon, La Pie voleuse, qui eux ont éclipsé ses œuvres plus dramatiques comme Guillaume Tell. Et son dernier opéra, écrit pour une scène italienne, sera présenté à Venise en 1823, Semiramide. En 1827, son ultime opéra sera présenté à l'Académie royale, Guillaume Tell. À partir de là, il se consacre à la musique religieuse.
Le style du bel canto, caractérisé par des airs coulants, expressifs et souvent spectaculaires, s'est également épanoui dans les œuvres de Vincenzo Bellini ou dans ses comédies. La deuxième moitié du XIXe siècle en Italie laissera la place à Verdi puis au Vériste, dont Puccini sera le principal vecteur.
Bellini meurt à 34 ans et nous laisse une douzaine d'opéras.
Donizetti se fait connaître dès 1818, mais ne connaîtra pas le même succès que son compatriote. Il livre L'Élixir d'amour et Lucia de Lammermoor.
Et puis il y a l'homme qui a sans conteste personnifié l'opéra italien, c'est Giuseppe Verdi. Il a vraiment insufflé à ses œuvres une vigueur dramatique et une vitalité rythmique inégalée, des histoires émouvantes, des tragédies, et il composa nombre d'opéras dont Nabucco, Le Trouvère, La Traviata, Un bal masqué, La force du destin, Aïda, qui associe bien sûr les splendeurs visuelles du grand opéra aux subtilités musicales d'une histoire d'amour tragique.
Oui, Valérie, et durant cette période, l'Italie est morcelée et les échos patriotiques ont su séduire un large public. Dans les années suivantes, Verdi se cherche et livre des partitions très différentes, Hernani, Attila. Néanmoins, les opéras de Verdi restent profondément italiens, utilisant la voix humaine comme principal moyen d'expression.
Vous êtes sur Couleur FM 97.1 dans l'émission Au fil des notes et nous allons écouter Libiamo, extrait de la Traviata de Giuseppe Verdi par Angela Georgiou et Roberto Alagna.
Libiamo, libiamo nei lieti calici che la bellezza infiora e la fuggevol, fuggevol ora s'inebria voluta. Libiam nei dolci fremiti che suscita l'amore, poiché quell'occhio al cuore onnipotente va. Libiamo, amore, amore, tra i codici più cari baci avrà.
In questo mare.
Abordons maintenant, si vous le voulez bien, l'opéra français. Et l'opéra italien arrive en France en 1645. Et le cardinal Mazarin avait fait venir de Venise une troupe qui joua devant Louis XIV. Le succès fut absolument immédiat, mais il fallut attendre 1671 pour voir le premier opéra réellement français apparaître.
Oui, et parmi les compositeurs français les plus connus comptent notamment Jean-Philippe Rameau, Hector Berlioz et Georges Bizet.
Berlioz, oui.
Mais le premier opéra français, Le Bourgeois Gentilhomme, fut en fait composé par Jean-Baptiste Lully. La première représentation fut en 1670.
Alors écoutons maintenant sur Couleur FM 97.1, dans l'émission Au fil des notes, le rondo extrait des Indes galantes de Jean-Philippe Rameau par Magali Léger et Laurent Naouri, par les musiciens du Louvre, sous la direction de Marc Minkowski.
Alors, le compositeur français le plus productif de la dernière partie du XIXe siècle fut Jules Massenet, auteur notamment de Manon et Thaïs. Les autres œuvres caractéristiques de la période furent Carmen de Bizet, Samson et Dalila de Camille Saint-Saëns et L'Acmé de Léo Delibes.
Alors on peut aussi parler du travail de Jacques Offenbach, auteur des Contes d'Hoffmann, compositeur parisien né en Allemagne, qui s'imposa à lui comme le maître de l'opéra comique français du XIXe siècle, appelé opéra bouffe.
Oui, il y a aussi l'opéra seria ou grand opéra, avec une histoire tragique à l'origine, puis une histoire plus légère avec un dénouement heureux. Il commence par une ouverture ou un prélude, appelé symphonie en italien, de plusieurs morceaux d'orchestre, d'air chanté en solo, en duo, en trio, en quator, en quintette ou sextoire. Ces airs chantés sont séparés par des récitatifs. Il se clôt par un final qui correspond le plus souvent à un ensemble vocal.
Eh bien, nous allons écouter maintenant sur Couleur FM 97.1 dans l'émission Au fil des notes, L'Acmé de Léo Delibes. Voici le duo des fleurs, interprété par Nathalie Dessay et Delphine Aïda.
Thank you.
C'est magnifique. Parlons de l'opéra comique ou opérette. Il fait alterner des épisodes parlés et des airs chantés.
Oui, celui-ci, malgré son nom, peut raconter une histoire dramatique, par exemple Carmen de Georges Bizet. Et Carmen a été créée le 3 mars 1875.
Alors écoutons un extrait de Carmen. L'amour est un oiseau rebelle. Alors là, je pense qu'on le connaît tous, celui-ci. Oui. Interprété par Teresa Berganza et le London Symphony Orchestra sous la direction de Claudio Abbado.
Refuser, l'uniforme nous supplie.
Mais qu'est-ce que l'opéra bouffe, Marie, alors ?
Alors, dans l'opéra bouffe, l'histoire et la musique sont légères et gaies. Il correspond à la farce ou à la comédie de théâtre. Il y a beaucoup de scènes où les personnages chantent en même temps, mais ce ne sont pas des chœurs. Il a été très en vogue à Naples. Alexandre Scarlatti ou Jacques Offenbach sont de grands compositeurs d'opéra bouffe.
Eh bien, à ce propos, on va écouter Barcarolle, extrait des Contes d'Hoffmann de Jacques Offenbach par Anna Netrebko et Elina Garanza. Au tout début du XXe siècle, Claude Debussy renouvela le genre de l'opéra avec Pélias et Mélisandre.
Et parmi les autres compositeurs notables, on peut noter Ravel, Ducasse, Roussel, Milhaud. Francis Poulenc est l'un des rares compositeurs d'après-guerre de toute nationalité dont les opéras, y compris le Dialogue des Carmélites, sont entrés dans le répertoire international. Le long drame sacré Saint-François d'Assise d'Olivier Messiaen a aussi retenu l'attention.
Alors voilà ce que l'on pouvait dire en gros de l'opéra italien et de l'opéra français. Bien évidemment, hein, nous avons survolé, on vous l'a dit, ce thème, mais il a le mérite d'avoir été abordé, puis peut-être de vous avoir donné l'occasion d'en savoir un peu plus sur le sujet et de vous mener à l'écoute de certains opéras. Alors la petite touche finale, Marie, je te la laisse.
Oui, je voulais vous signaler d'ailleurs un ouvrage que vous pouvez offrir pour les fêtes de Noël qui s'appelle « Le dictionnaire amoureux de l'opéra » d'Alain Duhaut, qui est un musicologue averti et qui a écrit entre autres « L'opéra est un art de l'excès du débordement, de la jouissance sans mesure, de la folie. Ne peut-on pas appliquer terme pour terme cette définition à l'amour ?»
Grande question. Grande question. Alors, on va aborder notre rubrique « Les petits potins du classique en Rhône-Alpes », que vous retrouverez aussi toujours sur le site de Couleur FM, dans la rubrique « Au fil des notes » sur Internet. Hein. Mardi 2 et mercredi 3 décembre, à l'église Saint-Just à Lyon 5e, sera joué le Bach Oratorio de Noël.
Le vendredi 12 décembre au musée Paul Dini de Villefranche-sur-Saône, le concert sandwich du CNSMD de Lyon.
Et le vendredi 19 décembre 2014, Quai des Arts, Place d'Armes à Rumilly, un concert de Lidija et Sanja Bistak. Et puis pour finir, Marie. Le 31 décembre 2014, à la Bourse du Travail, Lyon 3, une soirée réveillon, Stradivarius légende. Elle n'a pas voulu nous le dire, Marie. Marie, tu ne suis pas Marie. Et là, on aura
J'étais déjà au réveillon,
Je vois
fait.
Ça, t'es partie dans les...
Je voyais l'image qui m'a voilà, bousculée.
Eh bien, le violoniste Dimitri Samarevitch vous propose un tour du monde en musique et en danse dans les pays où le violon a su conquérir les cœurs à travers les cultures et les civilisations. Je pense que ça devrait être un très, très beau spectacle. Alors... on va terminer en écoutant la valse, extrait du Faust de Charles Gounod, toujours sur Couleur FM 97.1, dans l'émission Au fil des notes, que nous allons terminer et conclure par ce beau morceau. Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de Noël.
Absolument.
À Couleur FM aussi, à tous nos amis de Couleur FM, aussi bien auditeurs que bénévoles et qu'employés. Et puis, ben, nous espérons que cette année se terminera bien pour tout le monde.
Voilà, et on se retrouvera en
janvier. On se retrouve en janvier l'année prochaine. À très bientôt dans l'émission Au fil des notes sur Couleur FM 97.1. Bon réveillon à tous.
Au revoir.
Au revoir.